suite au tour de Jean Sureda, ses chroniqueurs pour l'émission Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec l'équipe de France de football. Enfin, nous recevrons deux invités du TMB, Lucie Carlier et Xavier Noguera. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Lucas, bonsoir.
Bonsoir.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi.
Bonsoir.
Messieurs, bonsoir. Essoufflé, Lucas.
À peine.
Alors, juste avant de venir vers vous, on va quand même saluer nos deux invités qui sont déjà là. Lucie Carlier, bonsoir.
Bonsoir.
Et Xavier Noguera, l'entraîneur du TMB.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, on vous avait vu, donc on vous présente parce que on va le dire à nos auditeurs. On le dit, Lucas Serdic vient d'arriver. Donc on vous présente en direct, Lucas Serdic,
voilà,
chroniqueur de. Ça va, essoufflé ?
Non. Du
non,
tout.
Pas du tout.
Regarde, ça va très bien.
Il est incroyable ce Lucas. Toujours le timing parfait, quoi. Le McGregor de la radio. Precision beats power and timing beats speed.
Mehdi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sportif que vous, non ?
Ah ben là, en ce moment, c'est sûr et certain.
Toujours
blessé. Je suis incapable. Je pense que je serai arrivé en retard, moi. Avec ma cuisse, je serai arrivé en retard.
Toujours blessé ?
Toujours blessé.
Toujours blessé. D'ailleurs, je reste vers vous, Mehdi Guillonneau, avant de commencer. On vous êtes passé chez nos confrères de France 3.
Paraît-il.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Paraît-il, il y a eu un petit reportage sur le prix des places entre le TFC et le
parler,
PSG.
Hein. On peut en parler, ouais.
Disons qu'on a participé à pousser un petit coup de gueule sur le prix des places.
On en parlera dans l'agenda, j'imagine.
Bah oui, forcément, parce qu'a priori, c'est toujours pas complet, alors que c'est dimanche,
PSG,
quoi.
Mais c'est PSG, c'est dimanche. On verra bien sur Canal+. Un mot pour nos invités, bienvenue et merci d'être sur Radio Présence. Vous voyez, l'équipe est au complet. On va passer une bonne heure, en tout cas, c'est ce qui va se passer. Oui,
mais oui,
tout simplement. On va avoir avant le match de France-Islande ce soir, un gros match, hein, bien évidemment, au Stade de France. J'espère que vous êtes prêts. On va démarrer maintenant avec les coups de cœur et coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Cette semaine, vous êtes plutôt content, on va le dire. Alors, on va laisser Lucas Serdic souffler.
Merci,
gentil. On va le laisser arriver. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. On va parler du rugby. Alors, du 15 de France, c'est bizarre parce que c'est un coup de cœur. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est étrange. 15
c'est
de étrange. France,
c'est
coup de cœur.
C'est pour Ronan et Warren, non ?
C'est ça. C'est pour l'éventualité qu'un entraîneur étranger prenne les rênes du 15 de France. Je pense que c'est une solution qui peut faire rebondir le rugby français dans son ensemble. Je prends l'exemple du Pays de Galles, justement, avec Warren Gatland, qui est le sélectionneur du Pays de Galles, qui a amené 3 grands chelems depuis son arrivée à la sélection galloise, une sélection qui était en berne. Je prends l'exemple aussi de l'Écosse, qui, justement, pourrait être un très bon exemple pour la France, puisqu'ils ont pris Vern Cotter, qui est un entraîneur néo-zélandais, qui a remis le rugby écossais sur les bons rails. Et ensuite, c'est Gregor Townsend, actuellement, qui est le sélectionneur, qui est un sélectionneur écossais. Alors, pourquoi pas le faire en France ? Prendre Warren Gatland pour remettre un peu le rugby français sur les bons rails, peut-être faire une transition avec un autre coach français. Mais je pense que faut arrêter de se regarder les pieds et peut-être essayer une solution autre que celle qu'on a toujours tentée.
C'est très rare en France, que ce soit dans le rugby, dans le foot, dans le handball, dans le tennis, de voir un entraîneur étranger prendre une sélection nationale.
Ouais,
dans le rugby
un peu plus quand même, oui. En plus parce que c'est un sport très français finalement. On aime bien rester entre nous, à part Vern Cotter, justement à Clermont, il n'y en a pas eu beaucoup, même pour les clubs.
Oui.
Là, on parle aussi de Ronan O'Gara pour notamment aider un petit peu à la défense.
Ouais.
C'est ce qui se ferait le plus certain en ce moment. Ouais. Warren Gatland, c'est quand même bien parti aussi. C'est vrai que ce serait sur le papier très très séduisant, ou en tout cas on se dit que il y a moyen qu'il mette un bon coup de pied dans ce qui ne va pas dans le rugby français.
Mehdi Guillaume.
Mettre un coup de pied, oui, et voilà, s'ouvrir à de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Vu comment c'est parti, apparemment ça serait plutôt un mix avec des entraîneurs français aussi pour les accompagner, donc pourquoi pas aussi une transition, parce qu'il y aura d'énormes différences et voilà, faut voir comment aussi réagissent les joueurs. Et...
Faut qu'on apprenne des meilleurs, tout simplement.
Exactement.
Je crois,
hein.
Est-ce que pour le fait de prendre un entraîneur britannique, ça va permettre aux 15 de France de rattraper son retard? Vous le dites souvent ici, vous, ouais. Ici, Maxime Brossard, alors, que l'équipe de France a 15 ans, 10 ans, 15 ans de rugby de retard. Est-ce que ça va aider à combler ce retard, alors, justement?
Déjà, c'est, Ryan Gatland est néo-zélandais.
Néo-zélandais,
il
n'est
pas britannique. Ouais. Ronan, lui, est irlandais. Oui, du coup, je pense qu'en fait, il...
Ça va pas aider. Ça va
changer des choses, puisqu'en fait ils ont une toute autre vision du rugby. En fait, comme je le disais au tout début, l'exemple parfait, c'est finalement ces nations celtes, déjà avec Joe Smith qui est néo-zélandais et qui est la tête de l'Irlande. On prend aussi donc la transition qu'il y a eu entre Van Cotter et Gregor Townsend pour l'Écosse, Warren Gatland pour le Pays de Galles, et même l'Angleterre. Vous voyez, ils ont un sélectionneur étranger qui est arrivé après Stuart Lancaster, qui est anglais, qui n'est autre que Eddie Jones, qui est australien. Donc pourquoi il faut s'inspirer, je pense, de ce qui se fait de mieux des nations du Sud, et ensuite s'en servir pour ensuite, on va dire, peut-être bonifier un peu les fondamentaux qu'on a, parce que le rugby français est quand même une grande tradition. Je pense pas que les coachs français sont nuls, mais une petite touche de nouveauté, ça fait jamais de mal.
Rattraper le retard, c'est pas forcément la bonne solution, parce que quand on aura rattrapé le retard, le rugby aura déjà de nouveau évolué. En fait, il faut déjà anticiper sur le prochain rugby. On a eu du retard parce qu'on n'a pas cherché à innover. À chaque fois, on a cherché à rattraper. Ça ne marche pas. L'équipe de France de foot en est un bon exemple aussi.
Exactement.
Ça sert à rien de rattraper les nations qui ont déjà réussi quelque chose. Il faut anticiper et voir ce qu'il y aura après. Et à mon avis, si un entraîneur étranger est séduit par le projet du 15 de France, c'est parce qu'il voit aussi qu'il y a une génération absolument magnifique qui arrive, et avec de bonnes idées et des joueurs comme ça qui sont à façonner, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très beau.
La Coupe du Monde en France en 2023. Aussi.
En plus.
C'est tout simplement l'objectif. On reste vers vous juste pour terminer avec vous, Maxime Brossard. On change de sport. Et la très 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 belle performance d'un boxeur français.
Oui, exceptionnel.
Magnifique.
Sabri Sediri, en fait, c'est plutôt un coup de gueule. le boxeur français, il boxait l'anglais Sam Maxwell à Leicester. Voilà, c'est un jeune boxeur français, il boxait pour la ceinture WBO des poids légers en championnat d'Europe. Et il restait 13 secondes dans le combat. Sabri avait fait un combat parfait, il avait mis son adversaire knockdown à deux reprises, il menait au point, c'était le 10e round, le dernier round. Et puis là, on ne sait pas ce qui lui a pris, il s'est mis à danser, à esquisser des petits pas, des feintes, et à chambrer son adversaire, à lui faire des grimaces, et puis boum, il s'est pris un KO, quoi.
Bien.
Donc voilà, le marchand de sable est passé, et la ceinture aussi. Donc ça lui apprendra, je pense, parce qu'il est quand même assez jeune, il a 25 ans, c'est jeune pour un boxeur. Et donc j'espère qu'il retiendra la leçon, parce que c'est quand même un gars qui est très talentueux, c'est dommage pour lui.
Lucie Carlier, notre invitée, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire chambrer en plein match et de justement d'avoir ce retournement de situation et de pouvoir fanfaronner justement ensuite? Ça vous est déjà arrivé?
Oui, ça arrive souvent, bon, encore samedi, même si c'était des jeunes. Bon, c'est moi qui chambrais,
c'est vrai,
mais il n'y a pas eu de retournement de situation.
Vous avez gagné,
voilà. Ça. Mais oui, ça arrive. Par contre, lui, je pense que là, ça va le suivre un bon moment.
Ça va le suivre et ça forge justement un caractère, ça change quelque chose sur la suite d'une carrière, c'est évident.
Le prochain combat, il fera pas le fanfaron, moi, je pense qu'il sera concentré jusqu'à la fin. Ouais. Oui.
Et il va le gagner.
S'il est pas trop bête, oui, voilà.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui apprennent jamais. Hein.
Bon, Kurzawa a appris, on le rappelle. Kurzawa qui, avec l'équipe de France Espoir, à l'époque, avait chambré un peu les Suédois avant que les Suédois, non seulement battent l'équipe de France, éliminent l'équipe de France, et gagne l'euro espoir 3 mois après. Donc voilà.
Oui.
Et comme quoi, il faut des fois chambrer, ça fait ressortir certaines vocations. Je me tourne vers vous, Lucas Serdic. On va parler là d'un Français qui survole complètement son sport, c'est Julien Alaphilippe.
Oui.
On avait reçu le président de la Fédération Française de Cyclisme il y a 2 semaines. Là, il est tout simplement numéro 1 mondial, et quelle performance ce week-end.
Ouais, il le devient. On n'a pas eu un coureur comme ça depuis au moins 30 ans, je pense, capable de gagner des classiques aussi diverses que Milan-San Remo et la Flèche Wallonne, qui est quand même une course de puncher. Et là, il a gagné une classique qui est souvent réservé aux sprinteurs, pas toujours évidemment, mais souvent les sprinteurs s'en sortent très bien. C'est une classique très très longue, la plus longue qui existe, 300 km quasiment. C'est vraiment, en plus il a abordé avec l'étiquette de favori sur le dos, et ça c'est
quand même très fort.
Il a assumé, il a été génial, il a fait rouler son équipe, il a fait travailler ses coéquipiers, et derrière il a absolument maîtrisé sa course. Il a été excellent. Il confirme effectivement après un Tirreno Adriatico où il a été effectivement très bon, où il avait déjà gagné une étape au sprint. Enfin, il n'a jamais sprinté à la Philippe. C'est incroyable ce qu'il fait. Et voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter dans les prochaines saisons, je pense. Sa seule limite, ça va être celle qui s'impose à lui. Il a dit qu'il préférait, par exemple, être champion du monde que gagner le Tour de France. C'est vrai que c'est beaucoup plus à sa portée. Mais même le Tour de France, s'il est un peu malin, je pense qu'il peut faire quelque chose d'incroyable sur cette course. Voilà, il a pas de limite pour moi.
Justement, c'est la même question pour le tennis. Dès qu'il y a un joueur de tennis français qui il va en quart de finale ou en demi-finale, on pose la même question pour Roland Garros. Là, elle est légitime cette question, Mehdi Guillonneau. Est-ce que Julien Alaphilippe peut enfin permettre à la France de remporter justement le Tour de France?
Alors, moi, j'y crois pas vraiment. Alors, c'est pas une question de capacité, je pense que c'est une question d'état d'esprit pour lui. C'est quand même un mec qui a besoin de challenge, de pouvoir s'échapper. Je sais pas comment expliquer ça. Le Tour de France, c'est une course cadenassée en fait, sur 3 semaines. Et c'est très long et il aura peut-être un petit peu de mal avec ça. Il a besoin de beaucoup de liberté pour s'exprimer. Mmh. Et peut-être qu'il s'y mettra un jour, mais je suis pas sûr qu'il réussisse parce que ça sera peut-être pas dans son tempérament en fait. Mais c'est pas les qualités qui manquent.
C'est lui qui va le décider, c'est ça. C'est juste ça. Si un jour il a envie, je pense qu'il pourra, parce que il a du mal effectivement à se canaliser. On sent que dans les étapes de montagne, quand ça grimpe, il a envie d'y aller, il se crame. Donc sur une course de 3 semaines, il peut pas. Oui, j'ai un petit peu mal à la gorge.
C'est ce que je viens de remarquer.
Ça me donne une voix très suave, je crois. Non.
Exactement. Très très grave. C'est parfait.
Julien Alaphilippe, cœur. Voilà.
Ouais, c'est tout ce que énorme performance ce week-end. Une performance qu'on espère tout aussi bonne ce soir, dans la mesure du possible pour l'équipe de France de football, qui à 20h45 ce soir au Stade de France recevra l'Islande. On va en parler tout à l'heure dans le débat, mais on va rester un petit peu dans le football, dans les éliminatoires justement de l'Euro 2020 avec vous, Mehdi Guillonneau. Alors, pour reprendre vos termes, c'est un mini coup de gueule. C'est ça.
C'est un mini coup de gueule parce qu'en fait, de notre prisme français, je pense que ce week-end et même depuis jeudi, on s'ennuie en fait en voyant tous les matchs internationaux, toutes les grosses équipes affronter des petites. En fait, on s'ennuie, les matchs sont pas intéressants. Et puis même au-delà de ça, on sait que dans tous les cas, il y a 2 grosses équipes dans les poules. Et comme c'est les 2 premiers qui sortent, les 2 premiers vont sortir. Avant, au moins, il y avait une équipe qui sortait, une équipe en barrage. Donc il y avait les barrages, il y avait quand même un enjeu un petit peu plus important.
C'est passé à 24 depuis l'Euro 2016 voilà. En France. Remporté malheureusement par le Portugal parce que c'était contre nous. Hein.
Et c'est un mini coup de gueule parce que si on se place du côté moldave, c'était une grande fête. Si on se place dans des pays comme la Hongrie, l'Albanie n'avait jamais joué l'Euro, l'Hongrie n'y avait pas été depuis longtemps en 2016.
Le Pays de Galles,
pour eux, c'est extraordinaire. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un point d'équilibre à trouver entre la compétitivité et le fait d'ouvrir les compétitions, parce qu'on sait que la Coupe du Monde va passer à 48 et combien bientôt à 62 dans 10 ans, à 80 dans 20 ans.
Est-ce que ça va pas contre le sport, justement, ce que nous avance Mehdi Guillonneau, de fait d'avoir d'enlever finalement les éliminatoires et de faire un peu comme au rugby pour le mondial ou pour la Coupe du Monde de rugby? C'est une poule de 5, les 3 premiers sont déjà qualifiés pour la prochaine et les 2 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Ça va contre le sport ou
non? Non, moi je trouve ça assez sympa, comme il l'a dit très bien Mehdi. C'est des rencontres qui ont un intérêt maintenant supérieur pour les petites nations, parce que tout simplement il y a la possibilité de se qualifier pour l'Euro, une possibilité qu'il n'y avait quasiment pas avant, quand le format est un peu plus réduit. Alors oui, on va peut-être un petit peu s'ennuyer au niveau des grosses nations, mais nous entre guillemets on a la chance de pouvoir briguer la victoire sur des Euros, sur des mondiaux. Les petites équipes n'ont pas grand chose à part les éliminatoires à se mettre sous la dent. Donc ça peut être... Non, moi je trouve que c'est bien. Voilà, 24 équipes en Europe. C'est sûr que ça fait un peu moins peur. Mais bon, il y a quand même moyen d'un accident industriel. Hein. Les Pays-Bas l'ont montré il y a 4 ans. Ouais. On ne sait jamais.
Et ce qui est bien, c'est que ce format 24 permet à une équipe de sortir des poules sans avoir gagné un match. Maxime Brossard.
Ouais, non, mais après, je pense que... si justement il y a un sport où vraiment il y a encore, on va dire, cet aspect de surprise, où il peut y avoir encore des renversements de situation, je pense que c'est bien le football quand même. Parce que vous parliez du rugby.
C'est vrai qu'il y a très peu
rugby,
de surprises.
C'est impossible en fait. Déjà, si vous faites, je sais pas, un Moldavie équipe de France, même si la France est nulle, il va y avoir des morts. Donc il faut surtout pas faire ça, quoi. Parce que la densité physique des joueurs, elle est telle que en fait, il y a trop d'écart, c'est trop dangereux. Dans disco foot, on ne sait jamais, voilà, un long ballon devant, une top qui sort, ça fait un faux rebond, vous tirez, il y a but, 1-0, tout le monde derrière, et après c'est terminé, vous pouvez gagner, quoi. Tandis que c'est, il y a qu'au foot qu'on peut, c'est la magie du foot, quoi.
Vive le foot, Maxime, en fait.
Ben non, mais c'est vrai. Je suis pas un grand fan de foot, mais faut dire quand même, pour ça, le foot c'est le roi des sports pour le suspense. C'est quand même un beau sport pour ça, quoi.
Xavier Noguera, l'entraîneur du Toulouse Métropole Basket, est-ce que justement, même dans le basket, il y a beaucoup de surprises ou pas, l'écart est homogène, enfin le niveau, pardon, est homogène, ou il y a vraiment un écart? On va mettre les États-Unis de côté, mais que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est homogène?
C'est homogène, ça dépend toujours pareil, ça dépend toujours les pays, toutes les nations, mais après, ça reste quand même homogène. Le basket fait partie, c'est un sport mondial. Dans tous les pays, il y a du basket, donc c'est la beauté du sport, ça reste homogène. Que ce soit même les pays africains maintenant, on voit les équipes nationales, ça monte de plus en plus. C'est pas des matchs évidents. On a vu cet été le Sénégal aux Jeux Olympiques, pas cet été, mais même aux Champions du Monde qui ont fait un Champion du Monde exceptionnel. Donc au basket, c'est très homogène, c'est à la différence par exemple du handball où ça reste un sport européen et pas forcément mondial.
Voilà. D'ailleurs, que des Européens, il y a que des pays européens qui ont gagné la Coupe du Monde de handball. Ça montre bien.
Je crois que les 12 premières équipes du championnat du monde sont européennes.
C'est
donc,
ça, exactement. Oui. Merci messieurs. Juste un petit coup de cœur aussi, c'était celui de Timothée Rouvière qui est malade, qui s'excuse. C'est sur Papadakis et Cizeron qui ont encore été champions du monde sur le patinage artistique. Encore une énorme performance pour ces deux Français. Merci messieurs. Nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine. À tout à l'heure. Fall. c'était Cat Centuries sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'agenda sportif.
Mon anglais est de mieux en mieux.
Vous avez un bon point, Jean.
C'est incroyable.
Une image.
Bah, c'est bien.
En même temps, il l'a dit 10 fois avant.
C'est vrai que
tous les 15 jours, Cat Centuries.
La musique dure 3 minutes, ça fait 3 minutes que je répète Cat Centuries. Bon, on va partir pour l'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. Oui. Et on va commencer, comme d'habitude, par du rugby avec un énorme choc. Le gros match
ça
de
s'impose
ce début d'année.
Toujours, en fait.
Pour
ça
le Stade Toulousain.
Toujours. Voilà, le Stade Toulousain qui va savoir si sa tactique a été payante. Son quart de finale quasiment décidé face au Racing 92. À la U Arena, si je dis pas.
C'est bien ça. Ouais.
Voilà. Donc, ce sera le quart de finale de la Coupe d'Europe, donc de Toulouse qui va se déplacer sur la pelouse du Racing. Ça va être un choc incroyable. Ce sera dimanche à 16h15, à suivre sur France 2, à suivre sur Bein aussi, pour ceux qui sont abonnés. Le Stade Toulousain qui a enchaîné un 14e match sans défaite en championnat. Enfin,
victoire contre La Rochelle.
Voilà, ouais, c'est
incroyable.
Incroyable, une série d'invincibilité vraiment jamais vue. 23-19 au Stade Rochelet en plus. Alors, elle est gagnée. Enfin, bref. Les Guinées à La Rochelle, c'est vraiment incroyable. Le Racing aussi qui est en forme, hein, qui a explosé l'UBB 45-27. Un bien beau match. Donc voilà, messieurs, je vous propose de pronostiquer, n'est-ce pas?
Sur Racing Toulouse. Voilà. En sachant qu'en championnat, il y a eu Racing Toulouse et Toulouse a gagné plutôt facilement à la U Arena. Hein, c'était bien ça.
Ouais, enfin là, ce sera pas la même chose. Hein. Le Racing, il mise tout là-dessus quand même.
Ouais.
Bon, alors,
c'est parti, Maxime Brossard.
Ils l'ont fait une fois, alors je me dis pourquoi pas deux. Je veux dire une victoire du Stade Toulousain. C'est dur, c'est pas rien.
Allez.
Je veux dire quand même comme c'est du synthétique, il y a du jeu un peu, ça y va. Je veux dire, je veux dire un 40-30 pour le Stade.
Ok.
30-40
quoi. Mehdi Guillonneau.
Moi j'ai juste envie de vous embêter, donc je veux dire 28-25 pour le Racing.
Bouh. Notre réalisatrice Coraline.
Je pense également que ça va être très serré. Allez, je vais mettre un 33-20.
Pour?
À 23, pardon.
33-23 pour qui?
Pour le Stade.
Ok.
Notre invité, Lucie Carlier.
Je suis du même avis.
Pour 33-23,
ouais,
pareil.
Pour le Stade. Xavier Noguera. Ah, un avis?
Pour pas dire la même chose, ça va être juste le score qui va changer parce qu'après c'est le Stade qui va gagner. 32-25.
32-25. Ok. Jean.
Ben moi, vu que le Stade Toulousain, je veux que le Stade Toulousain se qualifie, donc victoire du Racing.
Évidemment.
25-15.
Comme on ça, connaît déjà le résultat. Alors.
Comme ça.
À force ça, de te tromper toi-même, tu te rends bien compte.
Je change mon pari.
Voilà.
Ok.
Et à vous, Lucas Serdic.
Ouais.
Alors,
pas facile, hein.
C'est difficile.
Je vais dire un petit 18-15.
Un très petit
18-15. Pour le Stade Toulousain.
Bien évidemment. Il y avait de la Pro D2.
Il y a évidemment de la Pro D2. Alors du coup, il faut que je revienne.
Faut tourner les pages.
Pardon. Pro D2, la 26e journée qu'on va jouer ce week-end. Donc avec deux affiches qui nous intéressent. Ce sera samedi à 20h. Colomiers contre Carcassonne et Massy. Enfin Montauban plutôt, qui se déplace à Massy. Donc c'est un match hyper important pour Colomiers qui a perdu à Bayonne le week-end dernier 29-12, qui est toujours 15e, donc qui est toujours en position de relégable. Carcassonne a gagné par contre face à Mont-de-Marsan 11-9 et est 9e, tandis que Montauban a gagné face à Angoulême 31-10 et il jouera donc sur la pelouse de Massy qui est dernier, donc il y a moyen pour Montauban de faire quelque chose. Un petit mot quand même de Fédéral, vraiment vite fait, parce que sinon ça va le mettre de travers. Voilà, il n'y a pas de match ce week-end, mais malheureusement Blagnac
s'est incliné chez le leader
et pas qu'un peu, 28-3 avant Lens Romance. Donc voilà, c'était le leader incontesté de la poule 3. Oui. Voilà, Blagnac reste deuxième, a priori ça restera comme ça jusqu'à la fin. Oui. Et en poule 3, le beau derby entre Tarbes et Lannemezan. Voilà, là c'est Tarbes qui a gagné 20-16. Tarbes qui reste troisième. Bon, ce sera compliqué d'aller chercher mieux. Albi est premier et a gagné à Saint-Jean-de-Luz 15-13 dans le choc de cette poule 2.
Et Timothée Rouvière qui nous écoute, on le salue. Et lui, il a parié aussi. Et il nous dit 15-12 pour le Stade.
Ok. Voilà, quel copieur, 3 points d'écart, tout comme moi, évidemment. Voilà, ok.
On va voir s'il va gagner.
On peut changer de sport, si vous voulez.
Un mot de football.
Bah, un petit mot.
L'équipe de France qui va jouer.
L'équipe de France,
soir.
Mais du coup, ça, on va en parler. Par contre, il y a une belle affiche. L'affiche, peut-être, de cette saison au Stadium, TFC PSG. Ce sera dimanche en match de clôture de la 30e journée à 21h. Donc voilà, le stade qui n'est pas encore plein.
Hein. Donc, on va en parler.
On va en parler.
Ça m'énerve.
Vite fait.
On va en parler. C'est quand même tout simplement incroyable de mettre des places. Alors qu'on mette des places un peu plus chères pour le PSG, c'est le jeu. Tous les clubs font ça, il n'y a pas de problème là-dessus.
Il y a cher et cher.
Mais 70 euros minimum, c'est-à-dire que vous êtes derrière les buts à 70 euros. C'est-à-dire que vous allez sur le site de l'UEFA, je vous invite à aller
On rappelle que les places en virage dans une affiche à peu près normale, c'est 10-12 euros.
Voilà. Donc moi, ce que j'invite les auditeurs, vous voulez dépenser 70 euros dans un match de foot, bah, vous allez sur le site de l'UEFA. La finale de la Ligue des Champions à Madrid démarre à 70 euros. C'est incroyable. Et pour faire un titre de comparaison, ce soir, donc on le rappelle encore une fois, France-Islande, match international, ça démarre à 25 euros. Alors, est-ce que le Stade de France et la Fédération française de football mettent les places trop basses, le prix des places ? Peut-être, mais c'est quand même tout simplement incroyable de mettre à 70 euros des places.
C'est pas bien.
Et le stade n'est pas à guichet fermé, alors que les 18 autres clubs, quand ils reçoivent le PSG...
Et puis les autres matchs, les autres TFC-PSG les dernières saisons aussi étaient quasiment ou à guichet fermé ou quasiment.
Ils étaient pleins 3 mois à l'avance. L'an dernier, le prix des places c'était 45 euros et c'était plein 3 mois à l'avance.
Voilà. Un petit mot de national parce que Rodez est en tête et ça fait peut-être un club dans la région en Ligue 2 l'année prochaine.
Rodez-Sochaux l'année prochaine ?
Rodez-Sochaux
peut-être se maintenir. Hein.
Ou alors, non, parce que Sochaux va descendre.
Ou alors on switch. Comme vous voulez. En tout cas, ils sont en tête.
Pour l'instant,
ils
sont barragistes.
Ils jouent dans le cadre de la 28e journée face à Concarneau qui est 12e. Ils accueillent Concarneau. Voilà, s'ils gagnent tous leurs matchs à domicile, ce sera vraiment bien parti vendredi à 20h. On peut parler d'un autre sport, si vous voulez, de handball par exemple.
On va parler de handball. Le Phoenix qui victorieux de Nîmes. Match nul,
29-29 face à Nîmes aussi bien. Mercredi dernier. Ils sont 8e et là ils vont jouer sur le parquet de Saint-Raphaël, 7e. Donc ça va être un beau match. Ce sera mercredi à 20h. Malheureusement, c'est pas à Toulouse. Et ce sera la 19e journée. En volet, par contre, il y aura une belle affiche à voir. Toulouse face à Tours. Tours qui est leader. Toulouse est 11e. Ce sera vendredi à 20h, 24e journée. Toulouse qui s'est incliné à 3-7-1 justement. Voilà, s'incliner à 7. Mais Toulouse tourne vraiment vendredi à 20h. Rugby à 13, oui, il n'y a pas de match ce week-end, mais il faut saluer la 4e victoire consécutive du Théo 13 qui sont allés s'imposer à Batley 38 à 12. Ce sera reprise le 6 avril face à Featherstone. Voilà. Sixième succès d'or.
Merci Lucas Serdic. Nous on passe au débat de la semaine.
Sportez-vous bien. Le débat.
On en a parlé déjà. Ce soir, l'équipe de France de football affronte l'Islande au Stade de France pour le deuxième match de qualification à l'Euro 2020. Victorieux en Moldavie 4-1 vendredi. Les champions du monde partent largement favoris. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude. On ne répond que par oui ou par non. Ce match est-il déjà décisif en cas de victoire? Bien évidemment, si la France vient s'incliner ou faire match nul, ça ne changera pas grand-chose. Est-ce que c'est décisif en cas de victoire? En gros, est-ce que la France sera officieusement déjà qualifié des deux matchs, sans faire offense aux autres équipes. Maxime Brossard.
Non.
Mehdi Guillonneau.
Non.
Et Lucas Serdic.
Oui.
Oui. Je me tourne vers vous. Mehdi Guillonneau, non, c'est trop tôt, il reste trop de matchs après. C'est ça?
Non, dans le sens où en fait, le match n'est pas vraiment décisif parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la France est déjà qualifiée avant le tirage.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui.
Oui, d'accord. Donc voilà, Vu comme ça.
Pour moi, c'est le côté décisif. Pour moi, la rencontre, elle n'est pas décisive puisqu'en fait, on est déjà qualifié.
Vous êtes conscient qu'avec ce qu'on dit, si l'équipe de France s'incline ce soir...
Ah, mais ils perdent peut-être.
Ils peuvent.
On a fait 2-2 il y a 6 mois à Guingamp. On perdait 2-0 jusqu'à la 88e avant qu'Mbappé mette...
Mais il y a Mbappé. Lucas Serdic, que l'équipe de France a intérêt, entre guillemets, à gagner pour laisser venir la suite de ces qualifications.
Oui, ils ont intérêt à gagner comme ils ont intérêt à gagner tous les matchs. Hein, mais je veux dire, c'est pas... On s'en remettra effectivement s'ils ne gagnent pas. Voilà, Mehdi parlait d'un manque d'intérêt. Peut-être, effectivement, il y a un peu un poil de manque d'intérêt. Nous, ce qu'on a envie, c'est de voir un beau match. C'est de voir une équipe de France qui joue bien, qui nous fasse plaisir, qui marque des buts, une attaque qui s'entende bien. Voilà, on voit poindre peut-être un début de débat entre Mbappé, Griezmann, Giroud, est-ce qu'ils s'entendent bien? Nous, on a envie de voir une équipe de France qui s'entend bien, qui s'amuse et qui gagne les matchs facilement face à l'Islande à domicile, comme ils devraient le faire, quoi.
Maxime Brossard.
Je pense qu'il n'y aura pas des matchs si faciles que ça. Après, même si je pense que la qualification, oui, comme on l'a dit, elle est quasiment acté, allez, on va se lancer, quoi. Mais notamment quand ils vont aller jouer en Turquie, c'est jamais facile. Même le déplacement en Albanie, est-ce que le match va pas être arrêté aussi? Non, mais enfin, bon, voilà, je veux dire, faut faire attention, quoi. Il y a des terrains où c'est dur de jouer. Et bon, quand vous êtes habitué à jouer dans des stades un peu, ben, je pense à Manchester ou d'autres clubs où c'est un peu aseptisé, où c'est devenu un peu du tourisme, et que vous retrouvez dans des vrais stades où il y a des vrais supporters qui ont le couteau entre les dents, c'est pas pareil.
Tu les as vus,
les
vrais supporters en Moldavie?
Non, mais je parle pas de la Moldavie, je parle d'Albanie ou de Turquie.
Oui, enfin,
je disais juste qu'il y aura quelques matchs quand même qui vont être des matchs un peu costauds, mais je pense que la France va passer.
Il y aura une grosse ambiance.
Ah oui, même en Albanie.
En Albanie.
Justement, la Turquie, c'est le prochain adversaire de l'équipe de France. Ce sera au mois de juin, le 8 juin prochain. La Turquie qui a gagné son premier match, qui joue également aujourd'hui, on va sûrement se retrouver entre les deux premières équipes de cette poule Turquie-France. Ce sera un tournant. Lucas Cerdic, la victoire potentielle de l'équipe de France ce soir va-t-elle permettre à Didier Deschamps, on sait qu'il aime pas trop ça, qu'il préfère garder une ligne de conduite, ça lui réussit bien, vice-champion d'Europe, champion du monde en 2 ans, est-ce que ça peut l'aider à le forcer entre guillemets à faire tourner, à tester de nouvelles choses?
C'est qu'il est têtu, le bougre. Hein. Bah, il y en a beaucoup qui, comme vous, aimeraient qu'il teste de nouveaux joueurs, mais lui, tant que ça marche, il a aucune raison de changer.
D'un côté, il a raison.
Il a raison, il a la légitimité, il a un groupe, il le dit, hein, c'est, pour lui, c'est beaucoup plus important que le reste. L'expérience qui s'accumule à chaque victoire, en fait, ce groupe est renforcé et il a de moins en moins de raisons de le changer. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la prochaine compétition internationale comme ça? Franchement, c'est difficile à dire, hein, parce que dans le foot, ça va vite. Dans un an et demi, il a le temps de se passer beaucoup de choses.
Je me tourne vers l'entraîneur de la table, Xavier Noguera. Il a raison, vous l'entraîneur, il a raison, Didier Deschamps, de garder cette ossature, surtout après ce sacre mondial il y a 8 mois.
Ouais, je pense qu'il a raison.
Il y a une logique là-dedans.
Bah, je pense qu'il a déjà sa logique. Lui, il respecte son plan de conduite. On voit d'autres sports. Alors, on parlait du handball. Le handball, c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils ont intégré petit à petit. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont une ligne directrice, une ligne de conduite. Et les gens, soit ils adhèrent, soit ils adhèrent pas, soit ils dégagent. Et je pense que Didier Deschamps, il fait exactement la même chose. Quoi. Il intègre les jeunes petit à petit. Aujourd'hui, il vit quand même sur une génération
dorée.
Un peu dorée. Et on peut laisser voir venir aussi.
C'est ça.
Donc, il va intégrer.
On rappelle que c'était l'équipe dont la moyenne d'âge la plus faible à la Coupe du Monde. Hein. Donc, il est quand même assez tranquille de ce point de vue-là. Ouais.
Donc voilà, qui continue. Hein.
Et du côté du sportif Lucie Carlier, est-ce que même pour des professionnels, même pour l'équipe de France championne du monde, c'est simple de se motiver pour... Encore une fois, c'est pas faire offense à ces pays et ces équipes-là, mais la Moldavie, Andorre, quand on vient d'être champion du monde, c'est pas très motivant. Il faut quand même, jouer.
C'est pas très motivant, mais du coup, ils sont attendus. Les gens veulent les battre, en fait. Donc, les adversaires sont surmotivés, donc il faut toujours se méfier de ça. C'est vrai qu'au foot, comme on disait, sur un contre, on prend un but, les mecs, ils se mettent à défendre derrière, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut qu'ils se méfient quand même. Ouais.
On verra bien.
Ouais, puis on n'est pas champion du monde si on manque de motivation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, un mec comme Mbappé, s'il ne plante pas son but à chaque match, on l'a bien vu, il fait la tête.
Hein, on l'a vu sur son pénalty loupé lors du dernier match avant la trêve.
Même si c'est la Moldavie en face, il aura envie d'en mettre 3 ou 4 et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on est bon.
Mais Di Giono, il doit faire tourner Didier Deschamps. Ce soir, a priori, il ne fera pas tourner. Ça lui réussit. C'est l'équipe qui, à part Kurzawa, ce sera l'équipe qui a été championne du monde cet été. Il doit faire tourner sur les matchs. Après, c'est un déplacement en Turquie. Il y a Andorre, mais c'est un déplacement en Turquie, le prochain.
Il doit, je ne sais pas, est-ce qu'il le fera? La réponse est non. C'est le système des champs, de toute façon. C'est presque un groupe fermé. Et voilà, il y a des nouveaux à vraiment petite dose. Et parce qu'il y a des blessés.
C'est que
pour les blessés. Et de toute façon, il faut s'y faire. Même si on pense le contraire, moi, je préférerais avoir de temps en temps de la nouveauté. Et je pense que cette nouveauté, justement, nous sortirait un petit peu de l'ennui. Il y a des équipes, des grandes équipes comme l'Espagne, l'Allemagne, il y a beaucoup de nouveaux. Et ça les sort de l'ennui, en fait, ce genre de changement. Et bon, on va se dire que c'est bénéfique pour la prochaine compétition. Et on va attendre que ça, quoi. Parce qu'on voit toujours les mêmes, en fait.
Maxime Brossard.
Moi, je suis un peu moins d'accord avec Mehdi. En fait, je pense qu'à partir du moment qu'une équipe fonctionne bien, je vois pas pourquoi on la changerait. Surtout que quand vous êtes champion du monde, ça tisse énormément de liens entre les joueurs. C'est presque, le mot est un peu fort, une fratrie. Et moi, je me calque aussi sur l'exemple du rugby. Je prends les équipes qui gagnent. Ben, je peux vous citer l'équipe de tête, en fait, sans avoir à dire mais qui a joué là, qui a fait ça.
Et ça a toujours été
ça. Ou la Nouvelle-Zélande. Je vous dis du 1 au 15, je peux vous dire qui joue, qui joue. C'est tout le temps la même compo. Et je pense que la force d'une équipe, c'est ça aussi, c'est de bien de se connaître.
Alors que la France, ça a commencé à déconner quand effectivement, ouais, à chaque rassemblement, il y avait des gens dont on entendait, on n'avait jamais entendu parler.
Voilà. Donc là, je pense,
à part les grands amateurs de rugby.
Oui, oui, non, mais là après, je pense que le foot, la France est un peu dans la même situation finalement que les All Blacks. Ils ont un vivier exceptionnel avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont très performants. Que bon, voilà, même si on fait quelques petits changements, justement, on voit pas trop la différence. Mais pour moi, il faut qu'ils gardent le corps de l'équipe.
Xavier Noguera.
Non, mais moi je reviens sur ce que tu dis. En rugby, on va se plaindre parce que les charnières changent tout le temps. On dit, mais comment on veut gagner un match, les charnières changent tout le temps. L'Espagne, tout ça en foot. Bon, les résultats des dernières compétitions de l'Espagne, je pense pas que ça soit.
C'est vrai que l'Euro 2016, le Mondial 2018, ouais, c'est.
Donc,
c'est
ouais,
moyen,
ils,
très
ils,
moyen.
Ils peuvent changer. Après, je pense qu'on parlait de l'équipe de France de foot. Didier Deschamps, lui, il n'est pas un club, quoi. Un club, ouais, on peut changer les joueurs. En équipe de France, on a tellement peu de temps pour travailler que c'est vraiment important de travailler sur la continuité. Et c'est ce qu'il fait, je pense.
Et vous, l'entraîneur, est-ce que c'est aussi compliqué pour un entraîneur de se remettre en question, même après un sacre mondial? C'est compliqué.
Mais je pense que. Je pense que les entraîneurs ont fait notre remise en question perpétuellement. Je pense que Didier Deschamps, il régulièrement fait sa remise en question. Si on veut continuer à avancer ou faire progresser l'équipe, il y a des choses, je suis sûr qu'à la finale ou à d'autres moments, ne lui ont pas plu. Donc s'il veut continuer à avancer, il est obligé de se remettre en question et de pointer du doigt ce qui n'a pas été, que ce soit lui dans son fonctionnement ou que ce soit dans le fonctionnement des gars, quoi.
Lucas Cerdic.
On dit aussi que Deschamps ne change pas, mais c'est pas totalement vrai non plus. Entre la finale de l'Euro 2016 perdue, ouais, et le Mondial gagné en 2020, il y a eu beaucoup de changements dans le monde de départ. Arrière gauche, ouais, arrière droit, défenseur central. Bon, Koscielny s'était blessé, mais quand même, Sissoko est sorti du 11, Mbappé a déboulé. Enfin voilà, il est capable aussi de voir quand ça s'impose. Qui aurait mis Mbappé, qui l'aurait sélectionné à 17 ans quand il avait fait à peine une demi-saison? Bon, exceptionnel, d'accord, mais voilà, il était très 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 jeune, il l'a imposé, il est capable aussi de voir ces choses-là. Didier Deschamps, il est loin d'être bête, hein.
Et l'équipe de France pourrait réussir, alors on est encore très loin bien évidemment, mais en cas de victoire de l'Euro 2020, on va très loin, réussir son deuxième doublé de son histoire après 98-2000 bien évidemment. Merci messieurs pour le débat, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec nos deux invités de la semaine. À tout à l'heure.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
C'était Aurel San sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'invité.
Orelsan, c'est quand même beaucoup plus facile à dire.
Non, c'est Orelsan.
En anglais, c'est vrai que c'est... Oui, en anglais, c'est pas mal.
Bah oui, c'est pas mal.
C'est pas mal. Nos invités ne sont pas sur les pelouses, comme on a parlé tout à l'heure avec l'équipe de France, mais sur les parquets, entraîneurs et joueuses du Toulouse Métropole Basket. Lucie Carlier et Xavier Noguera sont dans le 5 majeur de notre émission aujourd'hui. Rebonsoir.
Bonsoir.
J'imagine qu'il y a une énorme émotion d'être dans le 5 majeur de Sportez-vous bien ce soir.
Ouais, à part qu'on est, on n'est pas 5.
Or moi, je suis l'entraîneur. Je prends votre place. Je suis l'entraîneur.
Je suis le pivot donc.
On attend la remise des maillots alors.
Exactement. Lucie Carlier, vous êtes joueuse au TMB depuis 2 ans.
Oui.
Comment vous est venu tout simplement le basket au plus jeune âge?
Mes parents étaient basketteurs. Mes grands-parents aussi.
Donc c'était une obligation.
Coup, voilà, c'est ça. Dès le berceau, j'étais dans une salle de basket et je les ai plus quittés après.
Vous avez eu des modèles, des joueuses, joueurs, joueuses qui vous ont inspiré pour devenir la joueuse que vous êtes aujourd'hui?
Quand j'étais jeune, je dirais les joueuses avec qui je jouais, puisque j'ai intégré l'équipe professionnelle assez rapidement. Et après, à l'international, ce serait Gianna Torrasi, une américaine qui est quand même meilleure joueuse du monde pour moi.
On se rend compte très vite qu'on peut devenir professionnel ou ça vient d'un coup comme ça, on se dit ah, mais j'ai 17 ans, je suis là, j'ai 16 ans, je suis là. Ou tout de suite on se le dit, je veux être pro.
Quand j'étais jeune, je me disais pourquoi pas. Et c'est vraiment, il y a un jour, j'étais en équipe réserve, j'avais 16 ans. Et mon coach m'a dit, qu'est-ce que tu vises pour l'année prochaine? Et j'ai dit, être dans le 5 majeur, mais moi de mon équipe réserve en fait. Et il m'a dit, mais pourquoi pas aller en équipe première qui était en National 1 à l'époque, qui est la seconde division actuelle. Et je lui ai dit, mais t'es fou. Il m'a dit, mais t'iras faire une semaine d'entraînement et on verra. Et en fait, j'ai intégré l'équipe et c'est là où je me suis dit, je veux être pro et je le serai.
Voilà. Et la semaine d'entraînement, vous n'avez plus quitté l'équipe première à ce moment-là. Voilà. À ce moment-là. À quel moment vous avez compris aussi que le basket, c'est fait pour vous? On a compris que c'est vos parents, vos grands-parents, mais est-ce que vous avez testé justement d'autres sports ou est-ce qu'ils vous ont obligé à faire du basket ou vous avez pu faire du foot, du handball, du volley?
J'ai testé la natation. Mais ça m'allait pas. J'aurais aimé faire du foot, mais à l'époque, il n'y avait pas de club féminin.
Oui. Et donc, c'était mixte à l'époque. Ouais, enfin, le foot, c'était souvent ça.
Et donc, c'est resté le basket, mais je sais que c'est ma passion. Dès que j'ai une balle dans les mains, depuis que j'ai, je sais pas, 2 ans, j'ai une balle dans les mains et j'ai toujours traîné dans les salles à shooter tout le temps. Donc,
Lucas Serdic.
Vous êtes meneuse?
Non.
Non, vous êtes quel poste?
Ailière intérieure.
Et pareil, ça c'est un poste, enfin quand est-ce qu'on décide le poste qu'on a? C'est parce qu'on aime shooter qu'on devient ailier? C'est parce qu'on aime...
D'abord c'est la taille qui importe, on va dire. Et ensuite c'est l'habilité qu'on a avec la balle. Disons que si je dribblais peut-être un peu mieux, je serais peut-être meneuse. Mais oui, c'est la taille d'abord qui prime, ouais.
On l'a dit tout à l'heure, vous êtes... on l'a pas dit, on l'avait dit hors antenne. Vous êtes nordiste, vous êtes né à Dunkerque et vous avez joué pour votre ville. Ça a dû être une immense fierté de jouer pour le club qui vous a vu grandir.
Oh bah, oui, pour la ville. Oui, oui, de porter le maillot de l'équipe première de son club formateur, c'est toujours... c'est toujours bien, c'est toujours plaisant, oui, oui, oui.
Et de partir, de quitter le cocon familial, ça a été compliqué ou c'était, il y avait une certaine maturité derrière qui faisait que...
Ça n'a pas été compliqué du
tout. Ça n'a pas été compliqué, fallait.
Non, pas du tout, mais c'est que je suis attachée à ma famille, mais ça ne me dérange pas d'être loin, en fait. Donc j'ai pas eu de difficulté à partir, ça s'est très bien passé, pas de mal du pays, tout ça.
Tout va bien.
Ouais.
Et vous êtes partie en Ukraine, à Kiev, vous avez fait Regina... avant de parler purement sport, ce sont des belles expériences de visiter un autre pays, une autre culture, j'imagine.
C'est une belle expérience de vie, oui, parce que c'est une autre culture, mais vraiment pour tout, même religieusement, ça n'a rien à voir, c'est orthodoxe déjà. Donc le calendrier religieux n'est pas le même, la façon de vivre n'est pas la même, la culture, c'est une autre langue, un autre alphabet.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, non, mais c'est très, très, très enrichissant.
Maxime Brossard.
Moi, je voulais revenir sur le sport. Au niveau des entraînements, je voulais savoir, ou même de l'exigence, on a souvent cette image des pays de l'Est où c'est très, très dur. Il n'y a aucun cadeau. Est-ce que ça s'est passé comme ça quand vous étiez en Ukraine? Est-ce que ça a été l'école vraiment à la dure, quoi?
C'est ça, ouais. C'est à la russe. On a fait des entraînements. On allait courir 1 heure dehors, il pouvait faire -25 dehors, on courait, on venait, on faisait 1 heure de muscu et ensuite on enchaînait 1 heure sur le terrain. On rentrait manger, le soir on était reparti pour 3 heures d'entraînement. Ouais, c'est pas une légende.
Ah oui, d'accord.
Et justement, pour comparer au niveau. Déjà, est-ce que l'Ukraine est en basket?
Ça donne des idées à l'entraîneur. Mais juste là, il se dit, je vais pouvoir aller très loin.
Moi, il
fera
pas moins 25 à Toulouse, donc ça va.
est-ce que le niveau ukrainien, il se place à où dans le basket féminin?
Seconde division française.
Seconde division. Et donc le niveau français est plutôt bon?
Oui. Bah, ça se voit, rien qu'à regarder les joueuses qui jouent dans notre championnat. En première division, on a vraiment un beau panel de joueuses européennes qui jouent même en WNBA, qui jouent même, les joueuses françaises sont très bonnes, qui évoluent dans le championnat français.
Et comme chez les hommes, on pense tout de suite aux États-Unis, à l'Espagne, c'est exactement la même chose pour le basket féminin.
Oui, ouais. Les États-Unis en top et l'Espagne qui a un jeu vraiment très différent du jeu français, mais qui fait partie du top.
Un jour, vous l'avez vraiment envisagé sérieusement, une carrière aux États-Unis, ou ça a toujours été pour vous un peu quelque chose d'inatteignable, je sais pas.
C'est compliqué parce qu'aux États-Unis, c'est que l'été en fait. C'est la WNBA, ça se passe que l'été.
Ah oui.
Mais c'est vraiment, c'est inaccessible pour moi. Ouais. Même avec toute l'envie du monde.
Xavier Noguera, l'entraîneur.
Ouais, et puis juste pour rebondir pour les États-Unis. États-Unis, on ne dit pas, t'es, je vais jouer à WNBA, on claque des doigts.
Bah, je sais, je me doute bien.
C'est eux qui t'appellent pour venir jouer.
Ouais, d'accord,
c'est la différence, quoi. Mmh. C'est eux qui t'appellent pour venir jouer.
Il n'y a pas de système de draft, un peu. On ne peut pas tenter sa chance quand même. On ne sait jamais.
Là, c'est plus compliqué.
Quatrième tour.
Non. Après, si, pour les universitaires, tout ça, ça c'est possible. Mmh. Mais okay. Bon, c'est vraiment. Voilà, c'est surtout eux qui demandent.
Un autre monde.
C'est vraiment le top du top, parce que pour rappeler, c'est la meilleure joueuse française en ce moment, c'est Marine Joannes, qui vient de partir, c'est à New York,
c'est ça.
À New York, et c'est vraiment la meilleure, quoi. Il n'y a pas d'autres joueuses qui vont.
Pour revenir à vous, Lucie Carlier, vous avez quand même une expérience assez importante dans le sport, et même par rapport au pays étranger, l'Ukraine. Justement, au sein de l'effectif du TMB, quel est votre rôle, tout simplement?
Moi, ça, c'est au coach de répondre.
Je me tourne vers le coach.
C'est pratique d'en avoir deux quand même.
C'est ça qui est bien, c'est ça qui est super. Xavier, quel est le rôle de Lucie au sein du TMB?
Alors, ça dépend de quoi on parle. Il y a l'aspect terrain, après il y a l'aspect aussi extra-basket, pardon. Bon, sur le terrain, déjà, Lucie, c'est pour nous, quand elle joue, c'est un gros point de fixation et de défense. Parce que les équipes adverses sont obligées de s'adapter à Lucie. Parce que s'ils lui laissent 2 mètres, ils savent qu'ils vont prendre un panier sur la figure. Donc,
ça laisse des côtés, ça crée des décalages. Quoi,
ça crée des décalages parce que du coup, ça permet à d'autres joueuses de s'exprimer. Alors, des fois, ça lui engendre obligatoirement de la frustration. Parce que c'est pas elle du coup qui va pouvoir exprimer son jeu, mais ça libère ses coéquipières. Et par contre, dès que ses coéquipières, pareil, commencent à briller, Lucie, elle va ramener son jeu d'adresse. Après, il y a toute sa mobilité qu'elle peut nous amener par rapport à des défenses qu'on peut essayer de mettre en place ou des aspects tactiques, parce que c'est une joueuse très intelligente sur le terrain. Donc, quand on est entraîneur, ça facilite notre travail. Après, il y a le côté extra-basket.
Le côté
extra-basket, c'est... Lucie, comme vous la voyez là, c'est son tempérament au jour le jour. Toujours posé, toujours calme. Donc ça, quand on est entraîneur, c'est plutôt...
C'est bien.
C'est plutôt agréable. Et puis, elle aura toujours des propos raisonnés. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais s'emballer, elle va essayer de fournir une réponse juste qui ne va pas aller dans son sens forcément à elle, mais une réponse qui va être raisonnée et qui va aller dans l'intérêt du groupe. Donc c'est facile d'avoir des discussions avec elle.
Alors je me tourne vers Lucie Carlier, peut-être que le coach va y répondre encore une fois, mais comment vous jugez votre saison actuelle? On le rappelle, le TMB est deuxième du championnat, on va faire un zoom sur le TMB tout à l'heure. Comment vous jugez votre saison avec Toulouse?
On fait plutôt une bonne saison. On a eu quelques petites erreurs de parcours, on va dire, mais qui sont nécessaires parce que quand on gagne tout, on se repose un peu sur nos lauriers. Donc les défaites qu'on a pu avoir ont pu nous mettre un petit coup de pied au cul. Et là, on est sur 8 victoires de suite, il me semble. Chose qui est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Là, voilà, il faut continuer.
Et à titre personnel? Je tourne vers le coach.
Ouais.
Tu es facile.
Pourquoi t'es venu?
Xavier Noguera, la saison actuelle de Lucie Carlier.
Alors Lucie,
comment on le juge? Comment on la juge, pardon.
Lucie fait, c'est un peu métronome. Lucie, elle est.
Quand ça va, l'équipe va bien.
Quand ça va, l'équipe va bien. Mais c'est surtout que cette année, les gens vont peut-être pas forcément le voir parce qu'on est habitué à voir Lucie qui score tout le temps. Et Lucie cette année, on s'est mis un gros fil rouge tous les deux. On y a demandé d'essayer d'alterner un peu plus son jeu. J'ai vu que ce week-end, en plus, les gens lui ont fait remarquer. On essaie de lui mettre un fil rouge aussi défensif, parce qu'avec les qualités qu'elle a, elle peut nous amener encore plus de densité défensive, d'aller gagner des ballons sur la course, d'aller traverser du terrain. Et elle fait vraiment des efforts, je veux dire, dans le travail de l'ombre, qu'on ne voit pas forcément, je vais dire, par rapport à ce qu'elle fait habituellement. Donc, voilà.
On parlait de l'équipe de France tout à l'heure. C'est un rêve, un espoir, un objectif. C'est trop loin, c'est proche.
Ah, je pense que tout sportif rêve de porter le maillot de l'équipe de France, quel que soit le sport. Mmh. Après, je me fais vieille un peu là, pour intégrer l'équipe de France, mais sait-on jamais, pourquoi pas. Si Valérie Garnier écoute, elle sait que ça ne me dérangerait pas.
Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais vous avez quel âge ?
28.
28 ans.
Ça va.
Ça va, il y a encore moyen. Enfin, je ne me rends pas compte jusqu'à quel âge chez les filles on peut être appelé en équipe de France ou commencer une carrière internationale, mais il y a moyen.
Oh, peu importe. Oui, peu importe. Après, oui, j'aimerais bien. Ce n'est pas un objectif prioritaire, mais si ça peut se faire, oui, pourquoi pas.
Et la carrière d'un sportif de basket pour les hommes, les femmes, c'est pareil, 34, 35 ans, ça peut tabler même plus haut ?
Oui, après, ça tant que le corps suit, je pense que... Voilà.
Ouais. Ça dépend des postes aussi. J'imagine qu'au poste de pivot, c'est quand même un peu plus compliqué de durer.
Voilà,
ça...
on prend un peu plus de coups, voilà, c'est un peu plus physique. Ouais.
Je me tourne vers l'entraîneur, Xavier Noguera. Vous êtes au club depuis 2009. Quel est votre parcours avant d'arriver au TMB ?
Alors moi, je suis issu, je suis le régional de l'étape. Hein.
Ça ne s'entendait pas.
Issu de l'Ariège, du club de Pamiers, de l'UOP, voilà, où j'ai fait toutes mes armes étant jeune. Après, je suis parti à Tarbes, au TGB, en tant que joueur. Et un jour, une opportunité, voilà, une joueuse se blesse, tu peux pas venir t'entraîner avec nous, il nous manque une joueuse, de venir entraîner, l'année d'après j'étais sur le banc en tant qu'assistant, voilà, et donc opportunité que j'ai gardée, voilà un petit peu le parcours. Après moi je suis plutôt un homme de club, je suis pas un mercenaire qui part à droite et à gauche, j'aurais pu essayer de partir, aller voir d'autres clubs, mais moi je suis... Voilà.
Mais justement, comme vous venez de le dire, vous êtes amoureux des clubs. Là, c'est le TMB. Ça vous a jamais traversé l'esprit d'aller voir entre guillemets ailleurs, d'essayer de nouvelles expériences ? Après, vous avez le temps, mais ça vous est pas passé par l'esprit ?
Bah, c'est toujours pareil. Après, je pense que la vie est faite d'opportunités. Si demain, je sais pas moi, Ettore Messina m'appelle pour aller travailler avec lui ou.
Oui, on dit oui, on y réfléchit au moins.
Ouais, voilà, on va y réfléchir, quoi. Mais voilà, ça dépend, c'est toujours pareil. Je pense que la vie est faite d'opportunités, si on les saisit, si on ne les saisit pas. Après, je pense qu'aussi, il y a des moments, voilà, quand j'étais tout seul, on pouvait se permettre de quitter des clubs, aller ailleurs, tout ça. Quand on a des enfants, plus compliqué. Après, je pense qu'il y a un contexte qu'il faut aussi évaluer et prendre des décisions qui correspondent aussi à tout le monde.
Vous l'avez dit tout à l'heure, à l'instant, vous êtes ariégeois. Comment d'ailleurs ça se fait que vous ayez choisi le basket plutôt que le rugby ?
Bon, on a touché un petit peu à tout. Hein. Voilà, mais bon, basket, parce que c'est une terre de basket aussi, l'Ariège. Il y a de très bons jeunes qui sont passés par là-bas.
Je connaissais un club, le Coquelicot les Atois, d'ailleurs.
Ouais, mais nous, on les connaît pas, non. tu parles de la guerre, là.
Je savais pas, mais...
C'est le derby, non, mais après...
C'est le derby, ouais.
Ouais, mais Pamiers a toujours été plus haut et plus fort. Numéro 1, ça a toujours été Pamiers, ça n'a pas été les Coquelicots.
Comme Lyon-Saint-Etienne. Vous avez été longtemps à la formation, vous avez fait aussi du entraîneur adjoint, pardonnez-moi. Prendre l'équipe première, ça a été naturel pour vous ? C'est venu tout seul ou pas ?
Non. Non, non, pas tout seul. J'avais aucune vocation à tout ça au début. Moi, j'aime former les jeunes joueuses, passer du temps à former les jeunes joueuses. Un jour, le club a voulu se séparer de l'entraîneur, voilà, de part et d'autre. Ils ont décidé de mettre fin à leur entente. Et le club a voulu absolument que ce soit moi. Donc, j'ai refusé plusieurs fois. Et ils me l'ont imposé, j'étais salarié du club, et voilà comment ça s'est fait, et ça a été une grosse remise en question, ça m'amène plein de nouvelles questions, et c'est pour ça que j'y suis encore.
Lucas Sardic.
Vous êtes entraîneur de joueuses, vous l'avez dit, pourquoi des joueuses, enfin, est-ce que vous avez déjà pensé du coup à entraîner maintenant des joueurs, des hommes, ou est-ce que, voilà, non, c'est plutôt... C'est plutôt à qui vous...
Non, je suis avec les filles parce que j'ai eu l'opportunité avec les filles. Après, si demain, un jour, je dois l'entraîner avec les garçons, j'irai peut-être avec les garçons. Aujourd'hui, je suis bien avec les filles. Voilà, ce que je vous ai dit, quoi.
Le TMB a été malheureusement relégué il y a 2 ans. Vous avez pris l'équipe première juste après cette...
Non, à la relégation. À il restait 10 matchs. Ouais.
À la relégation. Où en est le club aujourd'hui? On l'a dit, deuxième du championnat.
Mais le club se structure, on essaie de structurer le club pour justement retrouver la première division le plus rapidement possible. Cette année, ça sera cette année, c'est l'année prochaine, il faudra que ce soit l'année prochaine.
C'est un objectif fort. À court terme,
à court terme, il faut que le club retrouve la première division. C'est vraiment important pour d'avoir un club féminin à Toulouse de haut niveau.
À quel échelon se situe le seuil un petit peu critique pour un club féminin de basket? La deuxième division, ça va encore, mais est-ce qu'au bout d'un moment, le statut professionnel même est en danger quand ça dure trop longtemps, ou est-ce qu'il faut descendre encore d'un échelon?
Tout dépend. Tout dépend comment vous gérez le club, qu'est-ce que vous faites. Nous, le club, pour le moment, on est en deuxième division. Les dirigeants et les bénévoles travaillent à pied d'œuvre tous les week-ends pour structurer, pour organiser des repas partenaires. On a des repas, c'est monté, je crois, jusqu'à 100 partenaires en semaine. Donc, je trouve que le club travaille de mieux en mieux. On a 1200 personnes en moyenne le samedi. Samedi dernier, il avait encore 1400.
Au Palais des Sports. Hein,
au petit Palais des Sports, voilà, à Compass Cafarelli. Donc, je pense que le basket féminin a vraiment sa place à Toulouse.
Je me tourne juste, il nous reste 1 minute 32 avant la fin de l'émission, je me tourne vers Lucie Carlier. Je pense que vous avez eu le temps peut-être de réfléchir à cette question, parce qu'on l'explique à nos auditeurs, nos invités ont les questions pour pouvoir suivre ça. Et je sens le regard du coach. Quel est le défaut? Si on doit sortir un défaut du coach, ça serait lequel?
Son anglais.
Ça
avait un traducteur. Il y a du progrès. Il y a beaucoup de progrès.
Ah, mais se mouille pas.
Vous pourriez être animateur à Radio Présence d'une émission sportive.
Moi, je peux être entraîneur du TMB.
À ce jeu-là, ouais, peut-être.
Mais celui-là, je le connaissais, donc c'est à l'arrivée, ne se mouillez pas.
Bon, d'accord. Bah, plus sérieusement, je dirais qu'il est trop gentil parfois.
Trop gentil, ouais. Bah, ça, c'est un faux défaut, ça, quand même, non?
Oui, non, je sais pas.
Non, mais en même temps, elle a connu l'école ukrainienne.
Oui,
c'est tout. Quoi.
Pourtant, je les amène en Ariège. Hein.
Oui, j'allais dire, il y a des zones où il fait moins 25 si on monte suffisamment haut.
Dans les montagnes là-haut.
Ouais. Pour terminer, en 30 secondes, le prochain rendez-vous du TMB, il reste 3 journées avant la fin de saison régulière. On est quasiment qualifié.
On est qualifié. Maintenant,
pour les playoffs, on le rappelle.
Voilà, mais on peut encore peut-être aller chercher cette première place.
Ça change quelque chose, la première place?
Mais pour recevoir le maximum jusqu'à la
fin.
Jusqu'à la finale. Mmh. Et on espère que le TMB retrouve l'élite du basket féminin en France.
Oui.
Merci beaucoup,
merci
Xavier
à vous.
Noguera. Merci. Lucie Carlier, pardon d'avoir été avec nous ce soir. C'est déjà terminé pour nous. Merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honey et Corinne Saint-Félix sur Radio Présence à 9h. Vivante Église, bien évidemment, avec Emmanuel Pella. On se retrouve lundi. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Oui.
Et si parmi vos efforts de carême, il y avait Radio Présence? Pour que votre radio chrétienne continue d'émettre, soutenez-la. Pour que votre radio chrétienne continue d'émettre, soutenez-la.